12. On nous écrit de Tarascon. Par une belle après-midi de ciel bleu et de brise tiède, Sidi Tartri, un califourchon sur sa mule, revenait tout seul et de son petit clos. Les jambes écartées par de larges coussins en sparterie que gonflaient les cédras et les pastèques, bercé au bruit de ses grands étriers, et suivant de tout son corps le ballin-ballant de la bête, le brave homme s'en allait ainsi dans un paysage adorable, les deux mains croisées sur son ventre, aux trois quarts assoupis par le bien-être et la chaleur. Tout à coup, en entrant dans la ville, un appel formidable le réveilla. Hé, monstre de sort! On dirait Monsieur Tartarin! À ce nom de Tartarin, à cet accent joyeusement méridional, le Tarasconnais leva la tête et aperçut à deux pas de lui la brave figure tannée de Maître Barbassou, le capitaine du Zouave, qui prenait l'absinthe en fumant sa pipe sur la porte d'un petit café. Hé, adieu, Barbassou! Fit Tartarin en arrêtant sa mule. Au lieu de lui répondre, Barbassou le regarda un moment avec de grands yeux, puis le voilà parti à rire tellement que Sidi Tartri en resta tout interloqué, le derrière sur ses pastèques. « Quel turban, mon pauvre monsieur Tartarin! C'est donc vrai ce qu'on dit que vous vous êtes fêteur? Et la petite Baïa, est-ce qu'elle chante toujours Marco la Belle ?»«
Marco la Belle ?» fit Tartarin indigné. « Apprenez, capitaine, que la personne dont vous parlez est une honnête fille maure et qu'elle ne sait pas un mot de français. »«
Baïa, pas un mot de français, mais d'où sortez-vous donc ?» Et le brave capitaine se remit à rire plus fort. Puis, voyant la mine du pauvre Sidi Tartri qui s'allongeait, il se ravisa. « Ah, au fait, ce n'est peut-être pas la même. Mettons que j'ai confondu. Seulement, voyez-vous, monsieur Tartarin, vous feriez tout de même bien de vous méfier des mauresques algériennes et des princes du Monténégro. » Tartarin se dressa sur ses étriers en faisant sa moue. « Le prince est mon ami, capitaine. Bon, ne nous fâchons pas. Vous ne prenez pas une absinthe ? Non. Rien à faire dire au pays ? Non plus. Eh bien alors, bon voyage. À propos, collègue, j'ai là du bon tabac de France, si vous en vouliez emporter quelques pipes. Prenez donc, ça vous fera du bien. Ce sont vos sacrés tabacs d'Orient qui vous barbouillent les idées. » Là-dessus, le capitaine retourna à son absinthe, et Tartarin, tout pensif, reprit au petit trot le chemin de sa maisonnette. Bien que sa grande âme se refusât à rien en croire, les insinuations de Barbassou l'avaient attristé, puis ses jurons du cru, l'accent de là-bas, tout cela éveillait en lui de vagues remords. Au logis, il ne trouva personne, Baïa était au bain. La négresse lui parut laide, la maison triste. En proie à une indéfinissable mélancolie, il vint s'asseoir près de la fontaine et bourra une pipe avec le tabac de Barbassou. Ce tabac était enveloppé dans un fragment du sémaphore. En le déployant, le nom de sa ville natale lui sauta aux yeux. On nous écrit de Tarascon. La ville est dans les transes. Tartarin, le tueur de lions, parti pour chasser les grands félins en Afrique, n'a pas donné de ses nouvelles depuis plusieurs mois. Qu'est devenu notre héroïque compatriote? On ose à peine se le demander quand on a connu comme nous cette tête ardente, cette audace, besoin d'aventure. A-t-il été, comme tant d'autres, englouti dans le sable? Ou bien est-il tombé sous la dent meurtrière
d'un de ces monstres de l'Atlas dont il avait promis les peaux à la municipalité. Terrible incertitude. Pourtant, des marchands nègres venus à la foire de Beaucaire prétendent avoir rencontré en plein désert un Européen dont le signalement se rapportait au sien et qui se dirigeait vers Tombouctou. Dieu nous garde, notre Tartarin. Quand il lut cela, le Tarasconnais rougit, pâlit, frissonna. Tout Tarascon lui apparut, le cercle, les chasseurs de casquettes, le fauteuil vert chez Costecalde, et planant au-dessus comme un aigle éployé, la formidable moustache du brave commandant Bravida. Alors, de se voir là comme il était, lâchement accroupi sur sa natte, tandis qu'on le croyait en train de massacrer les fauves, Tartarin de Tarascon eut honte de lui-même et pleura. Tout à coup, le héros bondit. « Au lion, au lion !» et s'élançant dans le réduit poudreux où donnaient la tente abri, la pharmacie, les conserves, la caisse d'armes, il les traîna au milieu de la cour. Tartarin Sancho venait d'expirer. Il ne restait plus que Tartarin Don Quichotte. Le temps d'inspecter son matériel, de s'armer, de se harnacher, de rehausser ses grandes bottes, d'écrire deux mots au prince pour lui confier Baïa, le temps de glisser sous l'enveloppe quelques billets bleus mouillés de larmes, et l'intrépide Tarasconnais roulait en diligence sur la route de Blida, laissant à la maison sa négresse stupéfaite devant le narguilé, le turban, les babouches, toute la défroque musulmane de Sidi Tartri qui traînait pieusement sous les petits trèfles blancs de la galerie. Troisième épisode, chez les lions. 1. Les diligences déportées. C'était une vieille diligence d'autrefois, capitonnée à l'ancienne mode de drap gros bleu tout fané, avec ses énormes pompons de laine rêche qui, après quelques heures de route, finissent par vous faire des moxas dans le dos. Tartarin de Tarascon avait un coin de la rotonde. Il s'y installa de son mieux, et en attendant de respirer les émanations musquées de grands félins d'Afrique, le héros dut se contenter de cette bonne vieille odeur de diligence, bizarrement composée de mille odeurs, hommes, chevaux, femmes et cuir, victuailles et paille moisie. Il y avait de tout un peu dans cette rotonde. Un trappiste, des marchands juifs, deux cocottes qui rejoignaient leur corps, le troisième hussard, un photographe d'Orléansville. Mais si charmante et variée que fut la compagnie, le Tarasconnais n'était pas en train de causer et resta là tout pensif, le bras passé dans la brassière avec ses carabines entre ses genoux. Son départ précipité, les yeux noirs de Baïa, la terrible chasse qu'il allait entreprendre, tout cela lui troublait la cervelle, sans compter qu'avec son bon air patriarcal, cette diligence européenne, retrouvée en pleine Afrique, lui rappelait vaguement le Tarascon de sa jeunesse, des courses dans la banlieue et de petits dîners au bord du Rhône, une foule de souvenirs. Peu à peu la nuit tomba. Le conducteur alluma ses lanternes. La diligence rouillait et sautait en criant sur ses vieux ressorts. Les chevaux trottaient et les grelots tintaient. De temps à autre, là-haut, sous la bâche de l'impériale, un terrible bruit de ferraille. C'est le matériel de guerre. Tartarin de Tarascon, aux trois quarts assoupi, resta un moment à regarder les voyageurs, comiquement secoués par les cahots et dansant devant lui comme des ombres falotes, puis ses yeux s'obscurcirent, sa pensée se voila, et il n'entendit plus que très vaguement geindre l'essieu des roues et les flancs de la diligence qui se plaignaient. Subitement, une voix de vieille fée, enrouée, cassée, fêlée, appela le Tarasconnais par son nom.
« Monsieur Tartarin, monsieur Tartarin !»«
Qui m'appelle ?»«
C'est moi, monsieur Tartarin, vous ne reconnaissez pas ?»«
Je suis la vieille diligence qui faisait il y a 20 ans le service de Tarascon à Nîmes. »
Que de fois je vous ai porté, vous et vos amis, quand vous alliez chasser les casquettes du côté de Jonquière ou de Bellegarde. Je vous ai pas remise d'abord à cause de votre bonnet de teur et du corps que vous avez pris, mais sitôt que vous vous êtes mis à rouler, coquin de bon sort, je vous ai reconnu tout de suite.
C'est bon, fit le Tarasconnais un peu vexé. Puis, se radoucissant, « Mais enfin, ma pauvre vieille, qu'est-ce que vous êtes venue faire ici ?»«
Ah, mon beau monsieur Tartarin, j'y suis pas venu de mon plein gré, je vous assure. Une fois que le chemin de fer des Beaucaires a été fini, ils m'ont pu trouver bon à rien, et ils m'ont envoyé en Afrique. » Et je suis pas la seule, presque toutes les diligences de France ont été déportées comme moi. On nous trouvait trop réactionnaires et maintenant, nous voilà tous ici à mener une vie de galère. C'est ce qu'en France vous... Vous appelez les chemins de fer algériens.
Ici, la vieille diligence poussa un long soupir, puis elle reprit.
Ah, oh, monsieur Tartarin, que je le regrette, mon beau Tarascon. C'était alors le bon temps pour moi, le temps de l'Est. Il fallait me voir luisante, avec mes roues vernissées à neuf, mes lanternes qui semblaient deux soleils et ma bâche toujours frottée d'huile. C'est ça qui était beau, quand le postillon faisait claquer son fouet sur l'air de la Galigadaou, la Tarasque, et que le conducteur, son piston en bandoulière, sa casquette brodée sur l'oreille, jetant d'un tour de bras son petit chien toujours furieux sur la bâche de l'impérial, s'élançait lui-même en haut en criant « Allume, allume !» Alors mes quatre chevaux s'ébranlaient au bruit des grelots, des aboiements, des fanfares. Les fenêtres s'ouvraient et tout Tarascon regardait avec orgueil la diligence détalée sur la grande route royale. Quelle belle route, monsieur Tartarin, large, bien entretenue avec ses bornes kilométriques, ses petits tas de pierres régulièrement espacés et de droite et de gauche ses jolies plaines d'oliviers et de vignes. Puis des auberges tous les 10 pas, des relais toutes les 5 minutes. Et mes voyageurs, quels braves gens, des maires et des curés qui allaient à Nîmes voir leur préfet ou leur évêque, de bons taffetassiers qui revenaient du marais, bien honnêtement, des collégiens en vacances, des paysans en blouse brodée, tout frais rasés du matin et là-haut sur l'impériale. Vous tous, messieurs les chasseurs de casquettes, qui étiez toujours de si bonne humeur, et qui chantiez si bien chacun la vôtre, le soir aux étoiles, en revenant. Maintenant, c'est une autre histoire. Dieu sait les gens que je charrie, un tas de mécréants, venus je ne sais d'où, qui me remplissent de vermine. Des nègres, des bédouins, des soudards, des aventuriers de tous les pays, des colons en guenilles qui m'empestent de leurs pipes, et tout cela parlant un langage auquel Dieu le Père ne comprendrait rien. Et puis vous voyez comment on me traite, jamais brossé, jamais lavé. On me plaint, le cambouis de mes essieux. Au lieu de mes gros bons chevaux tranquilles d'autrefois, deux petits chevaux arabes qui ont le diable au corps se battent, se mordent, dansent en courant comme des chèvres et me brisent mes brancards à coups de pied. Aïe, aïe, attendez, voilà que ça commence. Et les routes, oh, par ici c'est encore supportable parce que nous sommes près du gouvernement, mais là-bas, plus rien, pas de chemin du tout. On va comme on peut à travers monts et plaines, dans les palmiers nains, dans les lentisques. Pas un seul relais fixe, on arrête aux caprices du conducteur, tantôt dans une ferme, tantôt dans une autre. Quelquefois ce polisson là, il me fait faire un détour de 2 lieues pour aller chez un ami boire l'absinthe ou le champoreau. Après quoi, fouette postillon, il faut rattraper le temps perdu. Le soleil cuit, la poussière brûle. Fouette toujours, allez, on accroche, on verse. Fouette plus fort, on passe des rivières à la nage, on s'enrhume, on se bouille, on se noie. Fouette, fouette, fouette. Puis le soir, toute ruisselante, c'est cela qui est bon à mon âge, avec mes rhumatismes. Il me faut coucher à la belle étoile dans une cour de caravansérail ouverte à tous les vents la nuit. Des chacals, des hyènes viennent flairer mes caissons et les maraudeurs qui craignent la rosée se mettent au chaud dans mes compartiments. Voilà la vie que je mène, mon pauvre monsieur Tartarin, et je la mènerai jusqu'au jour où, brûlé par le soleil, pourri par les nuits humides, je tomberai, ne pouvant plus faire autrement, sur un coin de méchante route, où les Arabes feront bouillir leur couscous avec les débris de ma vieille carcasse. Blida, blida, fit le conducteur en ouvrant la portière. 2. Où l'on voit passer un petit monsieur. Vaguement, à travers les vitres dépolies par la buée, Tartara de Tarascon entrevit une place de jolie sous-préfecture, place régulière, entourée d'arcades et plantée de rangées, au milieu de laquelle des petits soldats de plomb faisaient l'exercice dans la claire brume rose du matin. Les cafés ôtaient leurs volets, et dans un coin, une halle avec des légumes. C'était charmant, mais cela ne sentait pas encore le lion. Au sud, plus au sud, murmura le bon Tartarin en se renfonçant dans son coin. À ce moment, la portière s'ouvrit. Une bouffée d'air frais entra, apportant sur ses ailes, dans le parfum des orangers fleuris, un tout petit monsieur en redingote noisette, vieux, sec, ridé, compassé, une figure grosse comme le poing, une cravate en soie noire haute de 5 doigts, une serviette en cuir, un parapluie, le parfait notaire de village. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais, le petit monsieur qui s'était assis en face parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante. On détela, on attela, la diligence partit. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. À la fin, le Tarasconnais prit la mouche. « Ça vous étonne ? » dit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face. « Oh non, ça me gêne, » répondit l'autre fort tranquillement. Et le fait est qu'avec sa tente à bris, son revolver, ses 2 fusils dans leur gaine, son couteau de chasse, sans parler de sa corpulence naturelle, Tartarin de Tarascon tenait beaucoup de place. La réponse du petit monsieur le fâcha.
Vous imaginez-vous, Brasseur, que je vais aller au Lion avec votre parapluie ? Dit le grand homme fièrement. Le petit monsieur regarda son parapluie, sourit doucement, puis, toujours avec son même flegme, « Alors, monsieur, vous êtes Tartarin de Tarascon, tueur de lions ?» En prononçant ces mots, l'intrépide Tarasconnais secoua comme une crinière le gland de sa chéchia. Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. Le trappiste se signa, les cocottes poussèrent de petits cris d'effroi, et le photographe d'Orléansville se rapprocha du tueur de lion, rêvant déjà l'insigne honneur de faire sa photographie. Le petit monsieur, lui, ne se déconcerta pas. « Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions, monsieur Tartarin ?» demanda-t-il très tranquillement. Le Tarasconnais le reçut de la belle manière. « Si j'en ai beaucoup tué, monsieur, je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête. » Et toute la diligence de rire, en regardant les trois cheveux jaunes de Cadet-Roussel qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. À son tour, le photographe d'Orléansville prit la parole. « Oh, terrible profession que la vôtre, monsieur Tartarin !»« Oh, on passe quelquefois de mauvais moments, ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel. »« Ah oui, le tueur de panthère !» fit Tartarin assez dédaigneusement. « Est-ce que vous le connaissez ?» demanda le petit monsieur. « Était pardi, si je le connais. Nous avons chassé plus de 20 fois ensemble. » Le petit monsieur sourit. « Ah, vous chassez donc la panthère aussi, monsieur Tartarin ?»«
Quelquefois, par passe-temps, » fit l'enragé Tarasconnais.
Il ajouta, en relevant la tête d'un geste héroïque qui enflamma le cœur des deux cocottes, « Oh, ça ne vaut pas le lion !»
Ah, en somme, hasarda le photographe d'Orléansville, une panthère, ce n'est qu'un gros chat.
« Tout juste !» fit Tartarin, qui n'était pas fâché de rabaisser un peu la gloire de Bombonnel, surtout devant les dames. Ici la diligence s'arrêta, le conducteur vint ouvrir la portière et, s'adressant au petit vieux, « Vous voilà arrivé, monsieur, » lui dit-il d'un air très respectueux. Le petit monsieur se leva, descendit, puis avant de refermer la portière, « Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil, monsieur Tartarin ?»«
Lequel, monsieur ?»«
Ma foi, écoutez, vous avez l'air d'un brave homme. J'aime mieux vous dire ce qu'il en est.
Retournez vite à Tarascon, monsieur Tartarin.
Vous perdez votre temps ici. Il reste bien encore quelques panthères dans la province, mais fi donc, c'est un trop petit gibier pour vous. Quant au lion, c'est fini. Il n'en reste plus un seul en Algérie. Mon ami Chassin vient de tuer le dernier. » Sur quoi le petit monsieur salua, ferma la portière et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie.
« Conducteur ! » demanda Tartarin en faisant sa moue.
« Qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là ?
Mais comment ? Mais vous ne le connaissez pas ?
Mais c'est monsieur Bombonnel !»
3. Un couvent de lions. À Miliana, Tartarin de Tarascon descendit, laissant la diligence continuer sa route vers le sud. 2 jours de dur chaos. Deux nuits passées, les yeux ouverts à regarder par la portière, s'il n'apercevait pas dans les champs, au bord de la route, l'ombre formidable du lion, tant d'insomnie méritait bien quelques heures de repos.
Et puis, s'il faut tout dire, depuis sa mésaventure avec Bombonnel, le loyal Tarasconnais se sentait mal à l'aise malgré ses armes, sa moue terrible, son bonnet rouge, devant le photographe d'Orléansville et les deux demoiselles du 3e Hussard. Il se dirigea donc à travers les larges rues de Biliana, pleines de beaux arbres et de fontaines. Mais tout en cherchant un hôtel à sa convenance, le pauvre homme ne pouvait s'empêcher de songer aux paroles de Bombonnel. Si c'était vrai, pourtant, s'il n'y avait plus de lions en Algérie, à quoi bon, alors, tant de courses, tant de fatigues? Soudain, au détour d'une rue, notre héros se trouva face à face. Avec qui, devinez? Avec un lion superbe qui attendait devant la porte d'un café, assis royalement sur son train de derrière, sa crinière fauve au soleil. « Qu'est-ce qu'il me disait donc? Il n'y en a plus !» s'écria le Tarasconnais en faisant un saut en arrière. En entendant cette exclamation, le lion baissa la tête et prenant dans sa gueule une sébile en bois posée devant lui sur le trottoir, il l'attendit humblement du côté de Tartarin, immobile de stupeur. Un arabe qui passait jeta un gros sou dans la sébile. Le lion remua la queue. Alors Tartarin comprit tout. Il vit, ce que l'émotion l'avait empêché de voir d'abord, la foule attroupée aux trousses du brave lion aveugle et apprivoisé, et les deux grands nègres armés de gourdins qui le promenaient à travers la ville comme un savoyard sa marmotte. Le sang du Tarasconnais ne fit qu'un tour. « Misérable ! » cria-t-il d'une voix de tonnerre, « ravalez alors ces nobles bêtes !» Et s'élançant sur le lion, il lui arracha l'immonde sébile d'entre ses royales mâchoires. Les deux nègres, croyant avoir affaire à un voleur, se précipitèrent sur le Tarasconnais, la matraque haute. Ce fut une terrible bousculade. Les nègres tapaient, les femmes piaillaient, les enfants riaient. Un vieux cordonnier juif criait du fond de sa boutique « Aux juges de paix, aux juges de paix !» Le lion lui-même, dans sa nuit, essaya d'un rugissement, et le malheureux Tartarin, après une lutte désespérée, roula par terre au milieu des gros sous et des balayures. À ce moment, un homme fendit la foule, écarta les nègres d'un mot, les femmes et les enfants d'un geste, releva Tartarin, le brossa, le secoua, et l'assit tout essoufflé sur une borne.
« Comment, prince, c'est vous ?» fit le bon Tartarin en se frottant les côtes. « Eh oui, mon vaillant ami, c'est moi !» Sitôt votre lettre reçue, j'ai confié Baïa à son frère, loué une chaise de poste, fait 50 lieues ventre à terre, et me voilà juste à temps pour vous arracher à la brutalité de ces rustres. Mais qu'est-ce que vous avez donc fait d'ailleurs, juste Dieu, pour vous attirer cette méchante affaire? Ah, que voulez-vous, prince? De voir ce malheureux lion avec sa sébile aux dents, humilié, vaincu, bafoué, servant de risée à toute cette pouillerie musulmane. Mais vous vous trompez, mon noble ami. Ce lion est au contraire pour eux un objet de respect et d'adoration. C'est une bête sacrée qui fait partie d'un grand couvent de lions fondé il y a 300 ans par Mohammed Ben Haouda, une espèce de trappe formidable et farouche, pleine de rugissements et d'odeurs de fauve, où des moines singuliers élèvent et apprivoisent des lions par centaines et les envoient de là dans toute l'Afrique septentrionale, accompagnés de frères quêteurs. Les dons que reçoivent les frères servent à l'entretien du couvent et de sa mosquée.
Et si les deux nègres ont montré tant d'humeur tout à l'heure, c'est qu'ils ont la conviction que pour un sou, un seul sou de la quête volée ou perdue par leur faute, le lion qu'ils conduisent les dévorerait immédiatement. En écoutant ce récit invraisemblable et pourtant véridique, Tartarin de Tarascon se délectait et reniflait l'air bruyamment. « Ce qui me va dans tout ceci, dit-il en manière de conclusion, c'est que, n'en déplaise à mon Bobonnel, il y a encore des lions en Algérie. »« Oh, s'il y en a, dit le prince avec enthousiasme, dès demain, nous allons battre la plaine du Chélif, et vous verrez. »« Et quoi, prince, auriez-vous l'intention de chasser vous aussi ?» Parole, pensez-vous donc que je vous laisserai vous en aller en pleine Afrique au milieu de ces tribus féroces dont vous ignorez la langue et les usages? Ah non, non! Illustre Tartarin, je ne vous quitte plus. Partout où vous serez, je veux être. Oh, prince, prince! Et Tartarin, radieux, pressa sur son cœur le vaillant Grégory, en songeant avec fierté qu'à l'exemple de Jules Gérard de Bombonnel et tous les autres fameux tueurs de Lyon, il allait avoir un prince étranger pour l'accompagner dans ses chasses.